Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro Yves Bastide pour l'émission Les Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle écrite par Anton Tchekhov, écrite en 1902, 2 ans avant sa mort, et cette nouvelle s'appelle L'évêque. Je vous lis le début de la nouvelle. La veille du jour des rameaux, on célébrait l'office du soir au monastère Staropetrovski. Lorsqu'on se mit à distribuer les rameaux, il était déjà près de 10 heures. Les lumières baissées, les mèches fumées, tout paraissait embrumé. Dans la pénombre de l'église, la foule ondulait comme la mer. Et l'évêque Piotr, qui ne se sentait pas bien depuis 2 ou 3 jours déjà, avait l'impression que tous les visages, vieux ou jeunes, masculins ou féminins, se ressemblaient. Tous ceux qui s'approchaient pour recevoir un rameau avaient dans les yeux la même expression. Dans la buée, on ne voyait pas les portes, la foule se déplaçait sans cesse, elle semblait sans fin. Un chœur de femmes chantait, une nonne lisait le canon. Qu'il faisait chaud. Comment étouffer, que l'office était long. Monseigneur Piotr était fatigué, sa respiration était haletante, courte, sèche, ses épaules lui faisaient mal, ses jambes tremblaient. Cela l'impressionnait désagréablement d'entendre un simple d'esprit crier de temps à autre dans la tribune. Et puis, tout à coup, comme en un rêve ou dans un délire, il sembla à l'évêque qu'il voyait s'approcher sa propre mère, Maria Timofeyevna, qu'il n'avait pas vue depuis 9 ans, ou bien une vieille qui ressemblait à sa mère. Ayant reçu un rameau, elle s'éloigna de lui, sans cesser de le regarder joyeusement, avec un sourire allègre et bon, jusqu'à ce qu'elle se perdit dans la foule et, pour une raison obscure, des larmes se mirent à couler sur son visage. Il avait l'âme en paix, tout était bien, mais son regard restait fixé sur le cœur à gauche, là où on lisait le canon et où on ne pouvait plus, à travers la buée et la demi-obscurité du soir, distinguer personne, et il pleurait. Des larmes scintillaient sur sa figure et sur sa barbe. Auprès de lui, quelqu'un d'autre se mit à pleurer, puis un peu plus loin encore quelqu'un, puis d'autres, et d'autres encore, et bientôt, l'église se trouva remplie de gens qui pleuraient tout doucement. Mais un peu plus tard, au bout de 5 à 6 minutes, le chœur des nonnes chantait, presque personne ne pleurait, tout était comme avant. Bientôt l'office prit fin. Tandis que l'évêque s'installait en voiture pour rentrer chez lui, le beau son joyeux de cloches lourdes et précieuses répandait dans le jardin du couvent éclairé par la lune. Les murs blancs, les croix blanches des tombes, les bouleaux blancs, la lune, lointaine dans le ciel, juste au-dessus du monastère, semblaient vivre d'une vie à eux, propre, incompréhensible, mais proche de l'âme humaine. C'était au début du mois d'avril et, après une journée tiède, printanière, le temps s'était rafraîchi, gelé légèrement, mais dans l'air doux et frais, on sentait le souffle du printemps. La route du monastère à la ville passait dans le seuil, fallait aller au pas, des deux côtés du carreau, sous le clair de lune brillant et paisible, des fidèles cheminaient dans le sable. Recueillis, tous se taisaient. Aux alentours, tout avait l'air accueillant, plein de force jeune, éveillé dans l'âme, un écho harmonieux, tous les arbres, le ciel, même la lune, et l'on aspirait à penser qu'il en serait toujours ainsi. Le carrosse rentra enfin dans la ville et roula dans la rue principale. Les boutiques étaient déjà fermées. Ensuite, ce furent l'une après l'autre de larges rues, sombres et désertes, puis la grande route, les champs, l'odeur des pins. Tout à coup, surgit une muraille blanche, crénelée, derrière un haut clocher tout inondé de lumière, et auprès 5 vastes coupoles dorées et brillantes. C'était le monastère de Saint-Pancras où habitait Monseigneur Piotr. Et là, également haut au-dessus du monastère, la lune, paisible, pensive. La voiture pénétra par la porte cochère. Ça et là, dans le clair de lune, tremblotèrent de noires silhouettes monacales. On entendit des pas sur les dalles de pierre. « Votre grandeur, » dit un frère convert à l'évêque, « à votre absence, il y a votre maman qui est arrivée. » « Ma mère ? Quand cela ? Avant l'office du soir, elle a d'abord demandé où vous étiez, puis Elle s'est fait conduire au monastère des femmes. Ah. Alors c'était elle que j'ai vue à l'église tout à l'heure, ô Seigneur. L'évêque se mit à rire de joie. Madame, votre maman m'a prié de dire à votre grandeur qu'elle reviendrait demain. Il y avait avec elle une enfant, sa petite fille sans doute, elle est descendue à l'auberge. Quelle heure est-il? 11 heures passées, ah, quel dommage. L'évêque resta quelque temps assis dans le salon, comme s'il ne pouvait croire qu'il fût déjà si tard. Il faisait chaud, il était mal à l'aise. Après s'être un peu reposé, il alla dans sa chambre à coucher. Il resta assis un moment, pensant toujours à sa mère. L'évêque changea de vêtements, se mit à lire les prières du soir. Et en même temps, il pensait à sa mère. Elle avait 9 enfants, une 40aine de petits-enfants. Autrefois, elle avait vécu avec son mari, qui était diacre, dans un pauvre village. Elle y avait vécu très longtemps, de sa 17e à sa 60e année. L'évêque avait d'elle des souvenirs qui dataient de sa plus tendre enfance, peut-être même de l'âge de 3 ans. Et comme il l'aimait. Lorsque dans son enfance et sa jeunesse était malade, comme sa mère se montrait tendre et délicate. Et maintenant, ses prières se mêlaient aux souvenirs qui s'animaient, toujours vives comme une flamme. Quand il eut fini de prier, l'évêque se déshabilla et se coucha. La lune se montra à la fenêtre, le sol fut éclairé, semé d'ombre, un grillon chantait. Dans la pièce voisine, le persiceuil se ronflait, dans ce ronflement de vieillard, quelque chose suggérait la solitude d'un orphelin ou même d'un vagabond. À 1h30, on sonna l'office du matin. On put entendre le persiceuil tousser, grogner quelque chose d'une voix mécontente, se lever, marcher. Persiceuil resta un moment debout. Persiceuil resta un moment debout à l'entrée de la chambre. Oui. Chez Raki, ils ont mis la lumière électrique à présent. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais que le bon Dieu les bénisse. Le jour suivant, le dimanche des Rameaux, sa grandeur rendit visite à l'évêque. Et puis, à 1h, des autres très chers dînaient chez lui, sa vieille mère, sa nièce Katia et une fillette de 8 ans. Il y a déjà 9 ans que nous nous sommes vus, dit la vieille. Et hier au monastère, comme je vous regardais. Seigneur, vous n'avez pas changé le moins du monde. Vous avez seulement maigri un peu et votre barbe s'est allongée. Ô reine des cieux, mère protectrice, hier, à l'office du soir, on ne pouvait pas se retenir, tout le monde pleurait. Moi aussi, tout d'un coup, en vous regardant, je me suis mise à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas moi-même. Et malgré la tendresse du ton, on pouvait voir qu'elle était gênée. Comme si elle ne savait pas s'il fallait lui dire tu ou vous, rire ou ne pas rire, et qu'elle se sentait femme de diacre plutôt que mère. L'évêque écoutait sa mère et se rappelait comment, bien des années auparavant, elle les amenait, lui et ses frères et sœurs, en visite chez des parents. Et la mère lui donne alors des nouvelles de toute sa famille. L'humeur de l'évêque changea tout d'un coup. Il regardait sa mère en se demandant pourquoi elle avait pris cette expression, ce ton respectueux et timide. D'où lui venait-il? Il ne la reconnaissait plus. Il se sentait triste, contrarié comme la veille. Il avait mal à la tête, les jambes très douloureuses. Le poisson lui semblait fade, pas bon. Il avait continuellement soif. Et soudain, Monseigneur ne pouvait plus parler, ne comprenait rien. Trois médecins vinrent en consultation, ils repartirent. La journée traînait incroyablement longue. Monseigneur avait rendu son dernier soupir. Le lendemain était le jour de Pâques. Un carillon joyeux et sonore retentit dans la ville. Au bout d'un mois, il y avait un nouvel évêque et personne ne pensait plus à Monseigneur Piotr. Ensuite, on l'oublia tout à fait. Seule la vieille mère du défunt, qui habitait maintenant chez son gendre dans une lointaine petite ville de district, lorsqu'elle sortait le soir pour ramener sa vache et rencontrer d'autres femmes, se mettait alors à parler de ses enfants, de ses petits-enfants, à raconter qu'elle avait eu un fils évêque. Elle disait cela timidement, craignant qu'on ne la crût pas. Et il y en avait, en effet, qui ne la croyaient pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.